De quoi s'agit-il?
C'est tout ce qu'il y a de simple, voyons.
Enfin, qui êtes-vous?
Répondez.
Je ne sais pas pourquoi vous nous faites perdre notre temps.
C'est vraiment incompréhensible.
Alors j'écoute.
Merci.
Eh ben, je vous écoute, parlez, allez.
Allez-vous me répondre, oui ou non?
Cinérama.
Vous en êtes sûr?
J'en suis certain.
Ah, un petit mot encore.
Cinérama.
Que faites-vous maintenant?
Actualité cinéma.
Ah bah voyez-vous ça.
Et tout le reste.
Je ne crains pas d'affirmer que notre émission est une entreprise de salubrité publique.
C'est délicieux. Nous avons tous nos petits fantasmes.
Je sais que vous êtes très occupés, aussi nous ne vous retiendrons pas longtemps.
Je serais ravi de vous croire.
Bonjour, bienvenue pour la troisième émission spéciale confinement qui contraint l'équipe de Cinérama à la séparation physique mais pas radiophonique. Heureusement, la technologie, alors Skype, les enregistreurs numériques comme un vulgaire ordinateur vont nous permettre de vous proposer cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons parler des gagnants et des perdants de la situation dans laquelle nous sommes plongés en tant qu'amoureux du cinéma. Les gagnants, ce sont les chaînes de streaming qui proposent films et séries pour un prix dérisoire. Et les perdants, ce pourraient être les distributeurs qui ne peuvent pas sortir leurs films dans les salles. Alors on a pu discuter avec deux d'entre eux. L'un, Pyramide, un distributeur parmi les plus réputés en France qui présente une douzaine de films pendant le Festival de Cannes et qui est dans l'attente que les salles réouvrent. Éric Lagesse, son PDG, nous expliquera le casse-tête que provoque cette situation inédite. Et l'autre distributeur, c'est Shellac. Basé à Marseille, il sort Monsieur Deligny Vagabond Efficace, un film en VOD alors que celui-ci était promis aux salles françaises. Thomas Ordono, le directeur de Shellac, nous expliquera pourquoi il a choisi cette stratégie. Mais avant d'entamer ce gros dossier dans Cinérama, on va parler des films que vous pouvez voir sur Netflix, car il semblerait qu'on connaisse toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui est le beau-frère du cousin, qui a les codes d'accès de la chaîne de streaming la plus populaire, mais pas nécessairement celle qui est de meilleure qualité. C'est Marine, qui depuis son domicile nous cause de sa programmation confinement.
Comment faites-vous pour choisir un film?
Cinérama.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
En ces temps de confinement où le simple fait d'aller au cinéma, de s'asseoir dans un fauteuil rouge au milieu d'autres spectateurs qui toussent et qui parlent pendant le film, cette simple idée relève du fantasme. Eh bien, il semblerait que nous soyons condamnés, pour une durée indéterminée, à nous contenter de films en VOD ou à opter pour la solution Netflix. Voici donc quelques suggestions de films disponibles sur Netflix qui sont soit des productions Netflix, soit des films qui n'ont été diffusés que sur cette plateforme. On va commencer avec un film philippin, c'est la première fois d'ailleurs qu'un film philippin intègre ce catalogue, c'est l'un des derniers ajouts du catalogue Netflix, il a été produit en 2019 et c'est un film qui s'appelle Dead Kids et qui a été réalisé par Michael Redd. Dead Kids commence comme un teen movie, le film inspiré de faits réels raconte comment une poignée de lycéens décide un jour d'enlever un de leurs camarades de classe et cet enlèvement va bien sûr très mal tourner. Dead Kids est une expression qu'on pourrait traduire par « enfant loser ». Les Dead Kids, ce sont ces adolescents qui ne sont pas populaires et qui vont ici devenir subitement des criminels en voulant kidnapper la star du lycée, dont le père est très fortuné. Car en filigrane, il est question des problèmes sociétaux qui agitent les Philippines, des ravages de la drogue et surtout des inégalités sociales et culturelles, notamment entre la capitale et la province. Ce qui rend le film intéressant, c'est qu'il oscille entre le thriller et le teen movie. On passe constamment d'une ambiance nocturne, tendue, illuminée de rouge et de noir entre les salons de massage, les bars, les écrans de jeux vidéo, à des scènes de vie du lycée très légères qui rappelleraient presque les séries télévisées philippines. On pense à Bully de Larry Clark également, en version bien sûr ultra édulcorée. Dead Kids explore en surface seulement la vie des adolescents philippins au travers d'un drame finalement assez convenu et assez peu subversif, mais qui a quand même pour principal intérêt de représenter un cinéma philippin qui, en dehors du réalisateur Brian T. Mendoza, reste finalement assez méconnu en Occident. Autre suggestion, c'est un petit coup de cœur pour moi, mais qui n'est toutefois pas récent, puisqu'il date de 2018, donc c'est l'occasion de le rattraper, c'est Serenity, un thriller de Steven Knight avec Matthew McConaughey et Anne Hathaway. Un film donc qui n'est pas sorti en salle et qui a été quelque peu, faut le dire, éreinté par la critique au moment de sa sortie sur Netflix. Ce que je trouve pour ma part assez injuste, le film étant certes loin d'être parfait, mais jouissant toutefois d'une écriture assez solide et d'une mise en scène vraiment inspirée. Dans ce thriller solaire qui se déroule sur l'île de Plymouth, nous suivons les pérégrinations de Baker Deal, un capitaine de bateau de pêche, très porté sur la bouteille et obsédé par un poisson en particulier, un espadon gigantesque qui lui échappe depuis maintenant trop longtemps. Tous les jours, inlassablement, il écoute la même émission de radio, prend son bateau et tente de le capturer. Son ex-femme, qui a épousé en seconde noce un riche homme d'affaires extrêmement sadique et violent, vient un jour le trouver pour lui demander une faveur et non des moindres. Elle veut que Baker tue son mari et maquille le meurtre en accident de pêche.
Around here, they like to say, everybody knows everything. What if the truth was, nobody knows anything.
Le point fort du film, c'est son atmosphère qui emprunte beaucoup au film noir, avec son anti-héros sombre au passé tumultueux, avec son archétype de femme fatale interprétée par Anne Hathaway. Il y a une tension rondement menée, on pense au port de l'angoisse, mais aussi à Plein soleil, à Calme blanc, au couteau dans l'eau de Polanski, et bien sûr, côté littérature, à Moby Dick. Si le film paraît de prime abord assez outrancier, dans sa photographie, aux couleurs très tapageuses, dans le surjeu parfois de ses protagonistes, dans ses mouvements même de caméra très appuyés, il faut attendre le dénouement du film pour comprendre tous ses partis pris. Serenity, c'est un film singulier qui ne fait pas l'unanimité, mais qui a vraiment le grand intérêt d'être réellement audacieux.
Sometimes we do bad things for good reasons.
Et pour terminer sur une note un peu plus légère, une comédie française, à nouveau que vous ne trouverez que sur Netflix, hein, qui s'intitule « Je ne suis pas un homme facile » de Éléonore Pourria.
Je me suis réveillé un beau matin dans une société aberrante.
Je suis dans un univers parallèle.
Où les femmes me disaient ce que je devais faire.
Sybille, oh, ça va? C'est pas fini, là?
Non.
C'est une comédie, encore une fois, passée complètement inaperçue et qui est pourtant réussie de bout en bout. C'est l'histoire de Damien, joué par Vincent Elbaz, un don juan pour qui le respect des femmes est une valeur assez secondaire dans la vie, hein, et qui, du jour au lendemain, se retrouve propulsé dans un univers où les codes sont inversés. Le monde qu'il connaissait avant n'existe plus. La société est devenue non pas égalitaire, mais profondément matriarcale. Les hommes doivent se promener en mini-short et arborer un torse parfaitement épilé, sous peine d'être rejetés par les femmes, qui, elles, collectionnent les amants, sont bien installées aux postes les plus hauts et ne s'embarrassent pas de sentiments. D'abord perturbé par ces changements soudains autour de lui, Damien doit apprendre à s'intégrer dans ce nouveau monde, à se plier à la domination féminine, d'autant qu'il tombe sous le charme d'Alexandra, une chef d'entreprise habituée à consommer les hommes. Interroger les codes que la société impose aux hommes et aux femmes, questionner la domination masculine, démontrer que ce qui caractérise le genre, finalement, n'a rien d'inné, tout en demeurant dans le registre de la comédie, le projet était très ambitieux, pour ne pas dire casse-gueule. D'ailleurs, Riyad Satouf a quelque peu échoué hein, en abordant les questions du genre dans son film « Jackie au royaume des filles ». Eh bien, dans « Je ne suis pas un homme facile », la réalisatrice trouve le ton juste entre réflexion et légèreté, entre humour cru et message politique, aidé par de très bons acteurs comme Blanche Gardin ou Marie-Sophie Ferdan, idéal pour rire sans oublier de réfléchir.
Imaginez un monde où ce sont les femmes qui se font belles pour moi. C'est moi qui leur fais des compliments.
Quelle horreur!
Et pour finir cette chronique conseil hein, sur une note positive, sachez que le patron de Netflix a assuré que malgré l'épidémie de coronavirus, eh bien, il n'y aurait aucune pénurie de contenu à craindre pour les 3 prochains mois.
Voilà pour la page Netflix que l'on rouvrira en fin d'émission. La chaîne de streaming n'a pas à se plaindre hein, d'une telle situation, avec des internautes avides de séries et de films à regarder. Il n'y en a plus dans les salles qui sont fermées depuis le samedi 14 mars, entraînant du même coup eh bien, l'arrêt d'un art ou d'une industrie coûteuse. Pour les distributeurs qui portent les films jusqu'aux salles, la situation est douloureuse et complexe. Alors nous avons discuté avec 2 patrons de sociétés de distribution, le petit Shellac et le renommé Pyramide. On débute avec Pyramide. Pour ce distributeur qui sort régulièrement des films, la fermeture des salles est évidemment une catastrophe.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Éric Lagesse, merci de nous recevoir hein, depuis votre domicile. Vous êtes PDG de Pyramide. Comment vivez-vous la situation ?
Je la vis avec philosophie, mais avec pas mal de stress aussi, puisque nous, en fait, on a bah, dès lors qu'on n'a plus de sorties de films, on n'a plus grand-chose à faire, puisqu'on est distributeur en salle de film et que du coup on est obligé de mettre une partie des travailleurs en chômage partiel et surtout on ne sait pas très bien quand est-ce que ça va recommencer en fait, c'est ça le vrai gros problème.
Si on veut être concret, quel gros problème vous pose cette situation inédite ?
Il y a 2 gros problèmes, il y a déjà les frais qui avaient été engagés sur les films qui devaient sortir. Donc ça, c'est des frais qui ont été engagés, dont une partie nous seront remboursés parce que les fournisseurs, les prestataires, beaucoup d'entre eux ont joué le jeu, mais d'autres qui ne seront pas financés. Il y a par exemple sur un film comme Les Parfums de la Presse qui va déjà paraître et qui ne va pas reparaître quand le film va sortir. On ne sait pas encore quand est-ce qu'on le sort. On s'est dit le 10 juin, mais on n'est pas certain qu'on arrivera à le sortir le 10 juin si les salles réouvrent le 1er juin, par exemple. Voilà, si les salles réouvrent le 15 mai, oui, c'est une possibilité. Donc, il y a déjà tout ça. Et puis, il y a tout le manque à gagner. Je pense que ça va être plus difficile de sortir des films après le confinement ou juste après le confinement. D'abord parce qu'il y aura peut-être plus de films qui vont devoir se caler et qu'on va se retrouver peut-être face à un embouteillage. Mais parce que aussi, pour le problème que je vous ai dit aussi, c'est-à-dire est-ce que les gens vont repartir en salle tout de suite ou pas ? Et puis après, bah, vous savez, une boîte comme la mienne qui ferme pendant 2 mois, c'est quand même assez lourd. Alors il y a le gouvernement, visiblement, semble vouloir nous aider à surmonter tout ça. Mais moi, il y a des gens pour le moment que je paye à ne rien faire. Ils en sont bien désolés, mais moi aussi.
Éric Lagesse, tout votre planning de sortie est maintenant chamboulé.
On avait daté des films jusqu'au 5 août, prenant en compte le fait qu'il y avait un festival de Cannes et qu'on a 12 films prêts pour ce festival, enfin qui seront prêts, donc qui ça ne veut pas dire qu'ils seront à Cannes, mais ils seront prêts, donc ils seront soumis au festival de Cannes, sachant que bon, il y en aura toujours quelques-uns qui évidemment y seront et qu'on datera ces films par la suite. Hein, donc tout ça est complètement chamboulé puisqu'on a été obligé de déprogrammer notre film du 25 mars qui est Les Parfums, notre film du 8 avril qui était Nuestras Madres, la caméra d'or de Cannes 2019, notre film du 22 avril qui était À voir le jour de Marion Lane et un film, le Grand Prix de Sundance qui s'appelle Yalda, un film iranien de Massoud Bakshi qui était au 6 mai. Donc tous ces films-là sont décalés et en fait, on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on va les recaler. On va officiellement les reprogrammer entre fin mai et juillet, mais on ne sait pas, enfin, c'est-à-dire tant que le confinement n'est pas... enfin, tant qu'on ne sait pas combien de temps durera le confinement et si les salles vont reprendre et si elles réouvrent, combien de temps ça va mettre pour reprendre un rythme de croisière, c'est extrêmement difficile de reprogrammer des films. Donc, en effet, en tout cas, toute mon équipe de programmation est complètement à l'arrêt puisqu'ils n'ont plus que des coups de fil amicaux à passer aux gens ou répondre à des gens qui les appellent, j'imagine, pour leur dire « on ne sait pas trop quelle date on va reprogrammer le film » et les exploitants eux-mêmes ne savent pas quand est-ce que les salles réouvrent. Donc c'est extrêmement compliqué.
Éric Lagesse, si les salles de cinéma réouvrent, évidemment, vous allez pouvoir reprogrammer vos sorties. Pourtant, rien n'indique que la période sera propice.
Alors, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, alors est-ce qu'elles vont toutes réouvrir ensemble ? C'est pas sûr. Est-ce qu'elles vont réouvrir par zone de chalandise, par région ? C'est possible. Combien de temps ça va mettre pour que les gens reviennent au cinéma ? Est-ce que les gens vont se ruer au cinéma ? Parce qu'ils n'y seront pas allés pendant pas mal de temps, mais en même temps, ils ont été confinés et ils ont regardé des films à la télé. Est-ce qu'ils auront envie d'aller les voir, d'aller voir de nouveaux films en salle de cinéma ? Est-ce qu'ils n'auront pas peur que le virus traîne dans une salle de cinéma ? Est-ce que, enfin, voyez, tout, ou alors, est-ce qu'ils auront vraiment un engouement, une appétence pour voir les films et se dire « Waouh, super, je vais enfin retourner au cinéma ». Ça, le truc, c'est que personne n'en sait rien, en fait.
Donc, pour Pyramide, il est surtout question de réévaluer le calendrier des sorties. Mais n'avez-vous pas songé à préférer, hein, comme certains de vos confrères distributeurs, une sortie VOD plutôt qu'une sortie en salle décalée ?
Alors, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que il y a eu une demande de dérogation de VOD qui a été actée par le CNC avant-hier, je crois. Donc, je ne sais pas, moi, à l'heure qu'il est, quels sont les distributeurs qui vont mettre leurs films en VOD. Moi, ce que je vais essayer de faire et tenter de faire, c'est, en effet, des films qui devaient sortir en VOD, peut-être en mai ou en juin, d'essayer de sortir plutôt en avril. Donc, de les avancer. Mais encore faut-il qu'il n'y ait pas trop d'embouteillage, parce que c'est toujours pareil. Je veux dire, les embouteillages salles existent, mais les embouteillages VOD existent aussi. Je veux dire, s'il y a des gros films qui sortent, si tout le monde se met à sortir des films en avril, ça va être la foire d'empoigne. Donc, moi, de mon côté, il est évident que les films que je n'ai pas sortis en salle, je ne les sortirai pas en VOD avant.
Toute dernière question, Éric Lagesse. La situation est terrible hein, pour vous, comme de nombreux acteurs économiques dans le pays. Pensez-vous que bien, le secteur du cinéma puisse en tirer quoi que ce soit de cette situation ?
Dans mon domaine, je ne vois pas du tout lesquels. Psychologiquement, philosophiquement, personnellement, oui, certainement. Oui, oui, certainement. Mais dans mon domaine, moi, non, pas vraiment. Je ne crois pas du tout que 2 mois de confinement ou 3 mois ou 4 mois sans sortir de film, ça va réguler le marché, ça va faire que tout le monde va mieux s'entendre et que tout va repartir dans une belle philosophie de la vie, de l'économie du cinéma. Je ne dis pas que je suis malheureux de l'économie du cinéma aujourd'hui, mais je ne crois pas que ça va changer grand-chose. Après, en effet, dans le monde, vis-à-vis du capitalisme, de l'écologie, etc., moi, j'aimerais bien que ça change, mais ça, c'est peut-être hors propos.
This is Cinérama.
Et ça, c'est clair.
C'était un entretien que j'ai eu avec Éric Lagesse, le PDG de Pyramide Distribution, un des nombreux acteurs du paysage cinématographique français. Changeons maintenant d'échelle, hein, quittons Paris pour Marseille, où est installé un petit distributeur, lui aussi indépendant, c'est Shellac. On le voit moins au début des films, hein, car le Marseillais sort bien moins d'une dizaine de films par an. La situation que le cinéma traverse touche de plein fouet Thomas Ordono, le PDG de Shellac, d'autant plus qu'il possède également un cinéma à Marseille, La Baleine. Mais sa manière de répondre à cette situation est différente des autres distributeurs. On écoute.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Voilà. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Thomas Ordono, racontez-nous comment vous vivez cette situation.
Alors, nous, ça nous touche à deux titres. D'une part, on est distributeur. D'autre part, on est exploitant d'une salle de cinéma à Marseille. Donc, évidemment, on est concerné par la fermeture des salles parce que, tout simplement, ça coupe les films de leur public. Comment on réagit à ça ? On réagit à ça en essayant de continuer d'organiser une proposition, une programmation, non seulement en tant que distributeur via notre site, notre plateforme en ligne chez lacfilm.com, et également en tant qu'exploitant et programmateur de La Baleine à Marseille, à travers le site de La Baleine, qui fait une proposition de films qui sont des films de Shellac ou des films proposés par d'autres distributeurs, que La Baleine réunit et qu'elle rend disponible sur les différentes plateformes.
Thomas Ordono, vous deviez sortir Monsieur Deligny, Vagabond efficace, un film de Richard Coppens. Comme il ne peut jouir d'une exploitation en salle, hein, vous avez opté pour la VOD. Racontez-nous.
Alors, plus précisément, avant le confinement, il était prévu en sortie salle le 18 mars. Et dès qu'on a vu le confinement se confirmer, on a décidé de reporter la sortie d'une semaine pour qu'il sorte le 25 mars en ligne. Donc le 25 mars, il est sorti en ligne sur la plateforme de Shellac, shellacfilm.com, et en partenariat avec La Toile. La Toile, c'est un service VOD associé à des salles de cinéma. Il permet, quand un achat VOD est fait sur La Toile, qu'il soit associé à une salle d'achat, qui permet qu'il y ait une redistribution de la recette, un partage de recettes fait avec les salles qui sont associées à La Toile. Et donc, on a lancé ça mercredi dernier, le 25, avec une campagne de presse classique et en fait, un report du travail qu'on avait fait pour la sortie de salle sur la sortie VOD. Cependant, c'est un film de cinéma et le volet qui consiste à le montrer en salle n'est pas annulé. Il sera juste fait ultérieurement. Donc, on a juste inverser la chronologie des médias pour faire face à la situation.
Alors, est-ce que c'est la solution pour faire face à la situation que le cinéma vit actuellement ?
C'est une solution pour un certain type de films qui ont du mal à avoir accès aux écrans des salles de cinéma, mais ce n'est pas une solution en soi. C'est juste, ça confirme que la VOD et la distribution des films en ligne est quelque chose qui s'installe et qui peut s'inscrire de façon complémentaire à la distribution des films en salle.
Comment envisagez-vous le moment où les salles vont rouvrir, Thomas Ordono ? Tout le monde imagine un embouteillage terrible des films.
Je pense que la période de la réouverture va être très, très compliquée. Et donc, c'est pour ça que nous, on a pris les devants avec M. Deligny, Vagabond efficace. Donc, effectivement, je pense que la période de la réouverture des salles, qui ne sera pas, à mon avis, le 15 avril, mais plutôt fin avril, voire mi-mai, voire fin mai, parce que le déconfinement, il va se faire d'abord sur les individus et après sur les lieux publics, avec, à mon avis, des mesures restrictives qui vont être progressivement débloquées, quoi. Donc, le déconfinement des salles de cinéma, il n'est pas immédiat. Et donc, plus il va durer, plus il va avoir une quantité de films proportionnelle qui va se reporter à la réouverture. Et effectivement, à ce moment-là, ça va mécaniquement et logiquement être plus difficile pour les films qui, d'habitude, avaient déjà des difficultés d'accès aux écrans.
Est-ce que ça veut dire qu'à votre avis, certains films auront des difficultés à sortir ?
Ouais, selon moi, les films qui ont le potentiel de pénétration du marché qui leur permettra de résister à la difficulté du goulot d'étranglement qui se prépare pour la réouverture des salles, ceux-là, ils vont être reportés et puis ils sortiront. Les films qui ont des difficultés d'accès au marché d'une manière générale et qui seront reportés, à mon avis, ils vont souffrir.
Alors le film Monsieur Deligny, Vagabond efficace, dont vous avez parlé donc en VOD depuis plus d'une semaine, est-ce que vous êtes satisfait de cette mise en ligne ?
Pour l'instant, c'est un laboratoire, c'est-à-dire que c'est assez difficile d'analyser les résultats. On est à 500 vues au dimanche. Donc déjà, quand je vous dis 500 vues au dimanche, c'est un réflexe de programmation cinéma qui regarde les chiffres sur les 5 premiers jours, parce que le lundi, on programme pour le mercredi suivant. Là, pour l'instant, on choisit de rester sur un rythme hebdomadaire au mercredi et on analyse nos chiffres sur les 5 premiers jours, mais je n'ai absolument aucune expérience de la façon dont évoluent les chiffres sur l'exploitation VOD. Est-ce qu'ils sont croissants ? Est-ce qu'ils sont décroissants ? Est-ce qu'ils sont croissants de façon régulière ou exponentielle ? Ou décroissants de façon régulière ou exponentielle ? Je n'en sais rien. Pour l'instant, on peut juste dire qu'il y a une réponse, qu'on est plutôt satisfait, c'est-à-dire qu'en gros, on a une centaine de vues par jour. Donc, ça me semble tout à fait correct par rapport au résultat VOD qu'un film comme celui-là ferait s'il était dans la chronologie des médias, parce que je pense que en tout et pour tout, il ferait 500 vues. Or là, on fait 500 vues en 5 jours. Donc maintenant, ça reste à observer, à évoluer. On va relancer, on a prévu une promotion comme ça sur plusieurs et des temps promotionnels pour pouvoir relancer l'actualité du film sur plusieurs semaines. Les deux premières semaines d'exploitation étaient en exclusivité sur notre plateforme, sur chezlacfilm.com, avec le partenariat avec La Toile. Mais à partir de la troisième semaine, le 8 avril, on ouvre l'exploitation à Univers Ciné et aux plateformes habituelles. Donc là aussi, ça peut avoir d'autres répercussions et on va suivre ça attentivement.
Au-delà de Monsieur Deligny, Vagabond efficace, qui a été empêché de sortir, aviez-vous un calendrier chargé ?
Pour l'instant, ça ne concerne qu'un film. On a un autre film qui est daté au 27 mai. Et le film de Joao Nicolao, qui est en compétition de Locarno, qui s'appelle Technoboss. Et donc, on va continuer le travail de promotion du film. En annonçant le film en salle ou en VOD, et il sera en salle ou en VOD dépendant du calendrier de l'ouverture des salles.
This is Cinérama.
Je m'excuse, mais c'est aussi simple que ça.
C'était Thomas Ordonneau, le directeur de Shellac Distribution. Avec lui, on a pu voir que le cinéma, s'il ne se trouvait pas dans les salles, pouvait se retrouver en ligne. La fameuse chronologie des médias qui impose la sortie en salle avant le visionnage en ligne à la télévision est ainsi bouleversée et le Centre National de la Cinématographie, le CNC, est en train d'encadrer ce bouleversement. On referme ce sujet sur les tourments des distributeurs pour retrouver la programmation Netflix. Le géant américain profite pleinement de la situation. Après Marine en début d'émission autour de Manu de nous présenter son programme Netflix. Il a choisi deux nouveautés. Le très réussi La Plateforme, qui jouit d'une très bonne audience sur la chaîne de streaming. Et le moins bon, La Marque du Diable, un film d'exorcisme mexicain. C'est avec ce dernier qu'il commence.
Parmi les nouveautés en cette période un peu trouble, Netflix propose curieusement de se divertir avec un film d'horreur mexicain, La Marque du Diable, qui n'est en rien le fameux film de Michael Armstrong qui date des années 70. Il s'agit d'une énième variation autour de la possession, alors réalisée par un spécialiste du genre, Diego Cohen, à qui l'on doit déjà le très mauvais, malheureusement, Romina, diffusé également sur Netflix. Alors le début commence plutôt bien avec une séquence d'exorcisme impressionnante située au cœur de la campagne 30 ans plus tôt. Retour donc au présent, deux sœurs, Fernanda et Camilla trouvent un vieux grimoire qui ressemble au Necronomicon. Alors, en feuilletant le livre ancien, elles vont libérer les forces du mal qui vont s'emparer de l'esprit de Camilla. Évidemment, les médecins ne comprennent rien, attribuant les diverses manifestations physiques et mentales à du stress. Sans surprise, Fernanda va se tourner contre l'avis cartésien de ses parents vers Carl Nouni, prêtre spécialisé dans les exorcismes, aidé pour l'occasion de son fils adoptif possédé depuis longtemps, Thomas, luttant chaque jour contre ses propres démons. Habitué à chasser alors toutes sortes de créatures démoniales qui vont se retrouver face à un adversaire hors du commun, alors peut-être le diable en personne, super novateur comme idée. Alors après une ouverture donc, comme je le disais au départ, plutôt alléchante, la marque du diable sombre dans les pires travers du cinéma d'épouvante, invoquant un folklore religieux de pacotille et surtout nous assommant de grotesques références à Lovecraft. Alors si certains détails amusent, notamment le fait que le prêtre soit un toxico qui s'injecte de l'héroïne dans le pied, la nullité du scénario exaspère rapidement. Alors aucun enjeu dans ce pompage éhonté de l'exorciste, aucune vision ne vient réveiller, on va dire, un spectateur qui attend désespérément la fin du générique. Les pathétiques effets spéciaux numériques achèvent d'enterrer cette série Z, bénéficiant néanmoins d'une réalisation soignée et d'une interprétation appliquée, notamment du pauvre Eduardo Noriega égaré dans cet océan de médiocrité. Alors au bout de 5 minutes, on peut dire qu'on s'ennuie ferme, enfin on s'ennuie même à mourir devant ce navet esthétisant parce que la photo elle est... Alors le film reflète quand même, on va dire, le niveau de la production horrifique diffusée sur Netflix, quels que soient les pays représentés.
Après le moins bon, donc Manu nous parle d'un film d'horreur espagnol qui cartonne sur Netflix et c'est pas volé.
Hay mucha más gente abajo.
Dentro de poco habrá menos.
Quelle idée ! Volontaire ou non, les nouveaux programmes Netflix ne sont pas très rassurants, alors collant plus près à l'actualité, même de façon détournée ou allégorique, avec un mélange d'opportunisme et de perversité. Alors la preuve en est avec la plateforme, petit phénomène qui enfle en ce moment, confinement oblige. Cette production espagnole dispose de certains atouts, à commencer par un point de départ très fort, pur dispositif, dont le cinéma de genre aime nous offrir depuis quelques années. Le récit démarre dans une prison verticale disposant de plus de 300 étages, appelée la fosse. Une plateforme garnie de nourriture descend une fois par jour tous les étages de la prison afin de nourrir les prisonniers au nombre de 2 par palier. Alors très vite on comprend l'enjeu, si les détenus aux étages supérieurs se gavent, il ne reste en revanche plus rien à ceux d'en dessous. Autre élément important à retenir, les individus changent constamment d'étage, ne restant jamais à leur place. Si le principe n'est pas sans évoquer Cube de Vincenzo Natali, Plateforme dépasse son simple statut de film d'horreur conceptuel pour embraser un discours social, alors lourdement métaphorique, mais radical et efficace. Il s'agit ni plus ni moins d'une réflexion assez noire sur la lutte des classes, une violente critique du capitalisme et la société de consommation qui rappelle parfois le cinéma de Bong Joon-ho, en l'occurrence Snowpiercer. Alors dans cet univers sans rémission où chacun tente de tirer la nappe à soie pour ne laisser que des miettes aux autres, un homme, alors volontairement incarcéré pour des motivations troubles, seulement muni d'un livre Don Quichotte, qui n'est pas là par hasard le livre, à vous de décrypter, va tenter de remettre de l'ordre, de raisonner les pauvres humains capables de pires exactions pour survivre dans cet enfer. Alors comme disait Sartre, l'enfer c'est les autres, Galder Gazeltsu Urrutia, le réalisateur, non sans cynisme, illustre à grand renfort de scènes gore la phrase de l'auteur de La Nausée, ne critique pas tant le système que l'avidité, l'égoïsme naturel de l'individu. L'homme est un loup pour l'homme. D'ailleurs, l'expression « mange si tu ne veux pas être mangé à ton tour » est illustrée de la manière la plus littérale qui soit dans ce film d'horreur dérangeant, très violent, qui flirte avec le grand guignol lors de scènes de cannibalisme éprouvantes. La mise en scène fonctionnelle peine néanmoins à élever, c'est le cas de le dire, cette plateforme au-dessus de son concept malin auquel il manque une ampleur, une dimension tragique. Le sort des personnages, en dépit de la qualité de l'interprétation, ne nous touche guère. Alors on assiste, on va dire, à un jeu de massacre brillant, mais assez vain, malgré son discours politique justifiant un peu hypocritement tous les débordements graphiques. Alors des réserves qui ne doivent pas vous empêcher d'apprécier cette petite série B quand même sympathique, très sanglante et cruelle, qui s'achève néanmoins par une note d'espoir.
Ainsi s'achève Cinérama.
Vous avez fini ? Eh bien, oui, je crois que oui.
Oh, mais... C'est pas possible.
Ah, si, je vous assure.
Vous n'avez pas perdu de temps, c'est très bien.
Foutez ma gueule !
C'était la troisième émission spéciale confinement. On se retrouve chacun chez soi la semaine prochaine avec un sommaire, on l'espère, aussi riche que celui-ci. D'ici là, vous avez des milliers de films à regarder.